là, on va, en fait, on va inverser pour des raisons de contraintes de temps des personnes. C'est donc les docteurs Perquier et Lemasson qui vont intervenir d'abord sur le cas concret qu'on avait donc prévu de placer ce matin, puisque ce n'était pas possible pour elles cet après-midi. Et compte tenu du retard qu'on a pris, il faut qu'on leur permette de s'exprimer. Puis Magali Coldelphi donc clôturera elle-même la matinée.
D'accord.
Priori, on est à peu près... On tiendra dans le temps. Moi, je voulais juste faire une remarque, le temps qu'elle s'installe, c'est par rapport à ce qui a été dit précédemment. Moi, je ne sais pas quelle est aujourd'hui votre appréhension dans vos différents territoires, différentes régions. Moi, j'ai le sentiment, et j'aurais tendance à affirmer, qu'au sein des GHT, le pilotage de la psychiatrie et du handicap psychique, et je ne dis pas santé mentale volontairement, qu'on a revendiqué, on l'a plutôt obtenu, il faut maintenant le mettre en œuvre, c'est bien l'enjeu, et moi, je ne vois pas grand monde qui nous le dispute, et notamment à l'établissement siège, y compris quand c'est un CHU qui fait de la psychiatrie, et il y en a quand même plus d'un. Le deuxième aspect, c'est que ce dont on parle, ce n'est pas du tout de la santé mentale. J'ai acheté, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est qu'un petit bout. Donc la question de la santé mentale, là encore, qu'est-ce qu'on fait, comment on se lance? On utilise ou pas les CPT et autres, mais ça, on y reviendra cet après-midi à travers différents exemples. On voit bien qu'on nous invite aussi à l'action. Sachant que j'espère qu'on abordera, c'est pas pour faire plaisir à Pierre Dehaas, mais qu'on abordera la question justement des projets de santé mentale un peu différemment de ce qu'on fait trop souvent, c'est-à-dire en imaginant qu'on détient le savoir et qu'on va faire la leçon aux autres. Parce que c'est quand même aussi assez souvent ce qu'on constate dans les échanges qu'on peut avoir avec les acteurs sur les territoires, c'est qu'on imagine qu'on a la solution et qu'on va la leur apporter. Ça me frappe, ça revient souvent.
Voilà. Bien, allons-y. Je vous présente le docteur Florence Perquier, qui est épidémiologiste au GHT Paris Psychiatrie Neurosciences, et le docteur Valérie Lemasson, médecin responsable du DIM au CH Sainte-Anne. Et vous allez nous parler d'un outil partagé au service du diagnostic territorial de santé mentale parisien.
Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs de ces journées de nous donner l'occasion de parler justement de notre expérience concrète, celle de la mise en place d'un outil partagé au service du diagnostic de santé mentale sur le territoire parisien. Alors, désolée aussi pour la réorganisation de cette fin de première matinée en raison de
l'impératif. Vous avez 15 minutes.
Oui. Alors, il s'agit en fait d'une initiative parmi d'autres qui vont vous être présentées aujourd'hui. Une initiative de 5 établissements qui desservent les secteurs de psychiatrie générale parisiens. Ces 5 établissements, en 2016, ont été marqués par le passage d'une communauté hospitalière de territoire pour la psychiatrie parisienne à un groupement hospitalier de territoire, le GHT Paris Psychiatrie Neurosciences. Mais la réflexion sur la notion de territoire, vous l'imaginez, a été amorcée bien avant même la mise en place de la CHT en 2013, puisque dès 2010, les départements d'information médicale ont mis en commun les données concernant leur établissement. Et puis cette démarche a ensuite été enrichie jusqu'à ce qui vous est présenté aujourd'hui. Les données qui vont vous être présentées concernent l'activité de l'année 2015, les établissements, 5 établissements donc suivants ici présentés couvrent l'ensemble des secteurs de psychiatrie adulte sur le territoire parisien, mais également 7 des 12 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. En 2015, c'était plus de 2 millions de Parisiens qui étaient desservis par ces établissements, avec une somme de files actives d'environ 77 600 patients pris en charge en psychiatrie. Il ne faut pas oublier une activité spécialisée en neurosciences du centre hospitalier Sainte-Anne avec le pôle neuro-Sainte-Anne pour environ 8800 séjours au cours de l'année 2015. Alors, comment caractériser ce territoire à la fois en termes de population desservie, mais également en termes d'activité? Eh bien, nous tenions tout d'abord à saluer l'important travail réalisé par la TIH. Au cours de cette année, la TIH qui propose de nouveaux outils de diagnostic pour le suivi d'activité des GHT, via l'outil Ovalide ou via l'outil Scan Santé, notamment avec un outil cartographique particulièrement intéressant. Cependant, les indicateurs présentés par ces nouveaux outils nous posait des limites concernant notre propre analyse sur le territoire parisien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que peu de données socio-démographiques sont disponibles, et si elles sont disponibles, elles le sont à un niveau de détail limité, celui du département et de l'arrondissement, qui, on l'a dit, parfois ne sont pas adaptés au périmètre des GHT. Une seconde raison, c'était que si depuis peu l'activité de chaque établissement est décrite dans l'outil Ovalide par des fiches établissements, certains établissements, enfin, sur Paris, on a une problématique particulière, c'est que les hôpitaux de Saint-Maurice desservent à la fois des secteurs parisiens, mais également des secteurs situés dans le Val-de-Marne, et que ces fiches établissements ne permettaient pas de dissocier l'activité spécifique des secteurs parisiens que l'on voulait mettre en évidence dans ce rapport. Une autre limite, c'est que les données présentées sont avant tout macroscopiques et ne sont pas adaptées à une analyse plus fine de l'activité. Par exemple, si l'on veut dissocier l'activité de psychiatrie adulte de l'activité de psychiatrie infanto-juvénile, ou si l'on s'intéresse aux modes légaux de soins. Enfin, certains indicateurs nous semblaient problématiques quant à leur calcul. C'est notamment le cas des patients au long cours, puisque en fait, les résultats que l'on a via l'outil de l'ATIH ne correspondent pas tout à fait aux résultats qu'on obtiendrait sur les bases brutes des établissements. Un calcul qui nous semble un peu effet boîte noire. On ne sait pas trop comment, en tout cas, ces files actives de patients au long cours ont été calculées. Donc, toutes ces limites mettent en évidence la nécessité d'enrichir les données présentées par ces outils, notamment en effectuant un retour aux bases de données brutes des établissements. Et ce travail donc a été réalisé, ce travail collaboratif a été réalisé dès 2010 par la mise en commun donc des données d'activité par les DIM et progressivement enrichi jusqu'en 2015. Cet outil se présente pour le moment sous la forme d'un rapport. Il sera peu à peu développé sous la forme d'un contenu web sur le site du GHT. Mais toujours est-il que ce rapport est constitué en deux grandes parties. La première partie s'intéresse aux caractéristiques de la population parisienne, avec des indicateurs choisis, puisqu'on sait que ces indicateurs sont en lien avec les besoins de santé mentale. Alors, bien que ces indicateurs soient en lien avec ces besoins, bien sûr, ils ne sont pas en complète adéquation et on est bien conscient qu'il va falloir prendre d'autres dimensions en compte, comme par exemple le recours aux soins. La seconde partie de ce rapport concerne l'activité parisienne des 5 établissements. L'activité de psychiatrie tout d'abord, à partir d'indicateurs d'activité plus détaillés, je vous l'ai dit, qui sont disponibles dans le RIMP, et à l'aide d'un focus spécifique sur la psychiatrie infanto-juvénile. Une deuxième partie concerne l'activité de médecine chirurgie obstétrique et de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier Sainte-Anne. Donc, ces résultats n'ont pas été présentés seuls, mais ont fait l'objet d'une interprétation systématique afin de mettre en évidence les limites des indicateurs. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un tableau de résultats seul, mais qu'à chaque fois, une discussion entre les départements d'information médicale des différents établissements a eu lieu afin de mettre en exergue les difficultés d'interprétation de ces indicateurs. Ce qui a permis de mettre en évidence des spécificités de chaque établissement, à la fois en termes de prise en charge, de structuration de l'offre de soins, mais aussi en termes de codage. Et qui a permis aussi donc de souligner les limites quant à leur utilisation future, notamment si ceux-ci sont comparés à d'autres indicateurs. Donc je commencerai par vous présenter les caractéristiques de la population, et puis le docteur Lemasson vous présentera les données d'activité.
En 7 minutes.
Concernant les données de population, alors on n'a pas été chercher très loin. Nous avons exploité la richesse des données de la statistique publique, des données de l'INSEE, de la Caisse d'allocation familiale ou de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et grâce à une collaboration avec l'Atelier parisien d'urbanisme et de la Direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé, nous avons mis en place un outil cartographique présenté à différents périmètres. Le périmètre de l'îlot Iris, qui vous est présenté ici, le périmètre du secteur de psychiatrie générale, le périmètre de l'arrondissement et le périmètre du territoire desservi par les établissements. Et vous pouvez voir que cette analyse au niveau IRIS permet une analyse très très fine des indicateurs sociodémographiques, notamment ici de la part des bénéficiaires de la CMU-C sur le territoire parisien, puisque vous le voyez, dans le 14e arrondissement, il y a une certaine hétérogénéité même au sein des quartiers, avec une part plus importante de ces bénéficiaires dans le sud de l'arrondissement. Nous avons également développé ces indicateurs, dont je vous le disais, par secteur, ce qui a permis de mettre en évidence des caractéristiques socio-économiques fortement contrastées sur le territoire, avec une part des personnes non scolarisées sans diplôme et une part de la population au chômage plus importante dans les secteurs du nord-est parisien. Et nous avons également mis en évidence des situations familiales diverses sur ce territoire, avec une part des familles monoparentales plus importante dans le 20e arrondissement, le sud du 19e et le nord du 18e, mais également dans le 13e arrondissement. Enfin, et vous voyez ici en bas à droite, il en est tout autre pour la part des personnes vivant seules, puisqu'elles sont surtout concentrées au centre de Paris.
Nous allons passer maintenant à la partie indicateurs d'activité. Et pour mettre en place ces indicateurs d'activité, nous avons constitué un groupe de travail dédié, constitué par les 5 médecins d'IM et par une épidémiologiste. Alors, il faut avouer qu'il a fallu plusieurs réunions pour choisir et définir les indicateurs, chaque DIM ayant à cœur de défendre âprement ces indicateurs qui sentaient privilégiés selon l'établissement. Il a fallu toute la neutralité de notre épidémiologiste pour avancer sur des indicateurs neutres et validés par tout le monde. Nous avons fait le choix de travailler sur nos données d'établissement et non plus à partir des données valides, avec un recul de 3 ans et un archivage des données pour un suivi dans le temps. Et l'étape très très importante, Madame Perquier l'a rappelé, c'était vraiment la mise en commun et la discussion autour de chacun des résultats pour bien comprendre les différences d'activité de nos établissements et puis aussi les différences de méthodologie dans les travaux des DIM. Et c'était un préalable important sur le travail du DIM de territoire de faire ce travail-là. Nous allons présenter quelques indicateurs d'activité qui nous semblent bien refléter les spécificités de nos différents établissements. Alors tout d'abord la file active, un indicateur classique en psychiatrie, et nous présentons ici la file active rapportée à la population desservie en arrière-plan, et en premier plan la file active des secteurs rapportée à la population desservie. Et on voit que si pour la SM13, les hôpitaux de Saint-Maurice et l'hôpital de Maison-Blanche, 80% des patients sont des patients dits de secteur. En revanche, il y a deux établissements qui se distinguent. Ce sont tout d'abord le centre hospitalier Sainte-Anne, avec 55% de patients dits hors secteur, dont 30% qui viennent de l'Île-de-France ou de la province. Ces patients hors secteur viennent en consultation spécialisée, qu'elle soit universitaire ou non, ou dans un centre d'urgence, le CPOA, qui a une vocation régionale, qui explique cette forte attractivité. Et puis, à un moindre degré, le centre hospitalier Péri-Vaucluse, qui a des patients hors secteur à 35% de sa file active, essentiellement des patients parisiens, dont on fait l'hypothèse qu'ils sont des patients navetteurs qui viennent travailler dans les quartiers chics et qui consultent dans ces endroits-là. Alors, la diapositive suivante présente de la file active hospitalière, et on constate que sur cette diapositive, des répartitions entre l'hospitalisation à temps complet et l'hospitalisation à temps partiel très différentes entre les établissements. La part de l'hospitalisation à temps complet dans les files actives va de 75% à 96%. Alors qu'est-ce qui explique ces différences? Eh bien, il faut avoir en tête la structuration de l'âge des patients. La SM13 a une part très importante d'infanto juvénile dans sa file active, qui explique une part moins importante d'hospitalisation à temps complet. Il y a aussi la structuration de l'offre de soins. L'hôpital Maison-Blanche a extrêmement peu de structures d'hôpitaux de jour, ce qui explique que pratiquement toute son activité se fait en hospitalisation à temps complet. Nous avons ensuite un tableau sur les patients en séjour prolongé en temps plein. Donc les patients en séjour prolongé, nous avons repris la définition classique des patients qui cumulent 292 jours dans l'année en temps plein. Et là encore, on voit que les différences entre les établissements sont manifestes et sont assez importantes. Les taux de patients en soins en séjour prolongé en temps plein vont de 0,4% à presque 4% de la file active de temps plein. Alors qu'est-ce qui explique ces différences? Là encore, la structuration de l'âge dans la file active joue un rôle. La SM13 a beaucoup d'enfants, donc forcément moins de séjours prolongés dans sa file active. Et puis, il y a aussi que peut-être qu'on décrit ces activités-là, pas sur du temps plein, mais sur des foyers de post-cure. Et là encore, la SM13 a beaucoup de place en foyer de post-cure pour accueillir ce type de patients. Donc ça peut expliquer ces chiffres. Et une autre différence, c'est les choix médicaux. Dans le projet médical, Maison-Blanche et le centre hospitalier Péri-Vaucluse ont choisi d'ouvrir des lits dédiés pour l'accueil de ces patients-là. ce qui explique qu'on a un quart des journées qui sont pour les patients en séjour prolongé dans ces établissements. Voilà. Alors, c'est un résultat important. Et devant de telles différences, on est en train de mettre en place au niveau du GHT, et c'est Mme Luce Legendre qui coordonne le groupe avec le docteur Christodoulou, une réflexion avec l'aide du SNEH pour un peu imaginer des offres de soins innovantes pour ces patients qui sont en dépendance institutionnelle. Donc, peut-être qu'elle vous en dira un mot tout à l'heure si vous l'interrogez. Voilà. Alors, ensuite, on présente une DMH. Donc, la DMH, c'est la durée moyenne d'hospitalisation. C'est le nombre de journées sur la file active. Bien sûr, on a supprimé de ce calcul les patients qui sont en séjour prolongé, parce qu'une moyenne est attirée par les extrêmes et ça nous aurait donné des durées moyennes très biaisées. Eh bien, quand on fait cet exercice, malgré tout, il nous reste 10 points d'écart dans le temps plein entre la minimale et la maximale. Donc 10 points d'écart de durée d'hospitalisation, ça interroge quand même sur nos pratiques. Cette diapositive présente l'activité ambulatoire. On a choisi de présenter ici, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, juste une diapo, sur les différences de répartition des lieux de réalisation de l'acte. Où vont les patients en ambulatoire? Dans quel lieu consultent-ils? Et bien sûr, on a encore des différences manifestes entre les établissements. Alors, comment les expliquer? Eh bien, à Maison-Blanche, on a énormément de CATTP. Et il faut revenir sur la diapositive d'avant. On avait extrêmement peu de places d'hôpital de jour à Maison-Blanche. Donc, Maison-Blanche, on pourrait dire, a choisi, entre guillemets, je ne sais pas si c'était un choix délibéré, d'écrire cette activité sous forme de CATTP, là où les autres établissements ont mis en place des hôpitaux de jour. Donc quand on va mettre en place des péréquations, à un moment donné, il va falloir avoir tous ces éléments-là en tête. On fait la même chose et on ne les décrit pas de la même manière. Un autre élément important, c'est sur les lieux de soins externes de l'établissement. On a vu tout à l'heure que Sainte-Anne et Péré-Vaucluse avaient beaucoup de patients dits hors secteur. Eh bien, on le retrouve sur ce graphique avec beaucoup de patients qui viennent dans des consultations, pas au CMP, mais dans les consultations à l'intérieur de l'établissement, ce qu'on appelle les consultations externes. Voilà. Et puis, beaucoup d'urgences à Sainte-Anne liées à son centre régional, le CPOA. Voilà. Et dernier indicateur, sur les soins sans consentement, où on a représenté à gauche les files actives rapportées à la population desservie et à droite les journées, rapportées à la file active, à la population desservie. On rapporte à la population desservie parce que principalement les soins sans consentement sont dédiés pour les patients du secteur. Voilà. Alors quand on fait ça, on voit que les types de placements ne diffèrent pas vraiment entre établissements, on a à peu près les mêmes structurations, sauf pour le SPPI, qui est quand même plus important à Maison-Blanche et à Péré-Vaucluse, et dont on a vu l'augmentation au cours des années, une augmentation inquiétante, puisque c'était censé être, d'après la loi, un soin d'exception. Et donc on est un peu inquiet de voir cette masse de patients qui sont en soins en prééliminant, ce qui a soulevé cette problématique, et on va mettre en place une étude épidémiologique sur le sujet pour essayer de comprendre est-ce que c'est un désengagement des tiers, enfin, qu'est-ce qui se passe. L'autre point à remarquer, c'est l'importance des patients en SDRE sur l'hôpital de Maison-Blanche. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication à vous apporter. Alors, les files actives, la structuration des types de placements identiques entre établissements. En revanche, vous voyez que les journées, il y a des gros écarts entre les établissements. Ce qui veut dire que les durées de prise en charge de ces patients-là diffèrent beaucoup. Et on peut être surpris de voir, par exemple, à la SM13, beaucoup de patients, des durées de prise en charge pour les patients SDRE assez longues. Mais on sait qu'on a beaucoup de places en structure de foyer où il y a un accueil de ces patients-là. Voilà. Alors, ce travail de mise en commun de nos données, dans notre rapport, nous l'avons institué, commencé, Mme Perquier l'a rappelé, bien avant le 1er juillet 2016, où on a mis en place notre GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui regroupe 3 des 5 établissements du CHT, et bien avant cette nouvelle mission du guide de territoire. Mais ce travail s'intègre parfaitement dans ce nouveau cadre et nous a permis bien de rendre objectives les spécificités détaillées de chaque établissement, ce que ne permet encore au jour d'aujourd'hui aucun outil, ni l'outil Scan Santé qui a beaucoup évolué. Vraiment, merci à l'ATH de nous donner cet outil-là. Mais pour l'instant, on ne peut pas, avec l'outil Scan Santé, sortir ce qu'on a produit, nous. Même l'exploitation des bases de données du RIMP ne permet pas d'avoir tous les indicateurs que l'on a, parce que nous, on a des indicateurs, par exemple, sur les nouvelles mesures de placement, qui sont des indicateurs très intéressants et que seul l'établissement peut produire. Voilà. Donc, cet outil nous a permis de mettre en évidence les points qu'on devait harmoniser entre DIM. Hein, on l'a bien vu, on en a discuté. Sur le décompte de l'activité, on ne décompte pas les choses de la même manière. L'homogénéisation des règles de calcul aussi doit être faite. Et on ne décompte pas. Voilà, il y en a qui décomptent les communications téléphoniques avec le patient, d'autres non. Donc, il y a vraiment un travail d'harmonisation à faire, à mettre en place entre nous. Cet outil est un véritable outil partagé, évolutif. Hein, on met régulièrement des nouveaux indicateurs en route qui sont adaptés aux particularités du territoire. C'est un outil qui permet le suivi dans le temps, suivi des caractéristiques des populations, mais aussi suivi des organisations et des pratiques. Et puis, c'est un outil d'information qui permet le dialogue. C'est très important.
Merci.
C'est la dernière diapo. Donc, on est pile poil bien. Je continue. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision et à la réflexion qui permet une aide dans le diagnostic territorial partagé en santé mentale, une aide dans l'écriture des projets médicaux communs. Ça permet des questionnements médico-économiques et de gestion. On en a parlé, répartition des DAF, qu'est-ce qu'on fait, avec quels indicateurs, les ARS ont commencé, voilà. Donc nous aussi, on réfléchit. On réfléchit sur les pratiques et on met en place des études épidémiologiques grâce aux résultats qu'on a trouvés et aux problématiques qui ont émergé. Et puis, ça a fait une prise de conscience de l'importance d'avoir des bases de données de qualité. Et nos collègues sont très motivés maintenant pour coder des diagnostics. Et donc, on est très contents. Voilà. Et juste là, la dernière, vraiment, c'est fini, c'est vraiment, vraiment, vraiment. L'avenir, parlons de l'avenir quand même. Voilà, une base commune grâce au GHT. On va pouvoir enfin avoir une vraie file active et plus avoir des sommes de file active jusqu'à présent. Suivre les parcours, donc ça va être un travail intéressant. Et puis voilà, standardisation des indicateurs, des requêtes, on est en train de le mettre en place. Et puis surtout la mobilisation de nouvelles données, parce qu'on sait bien qu'il nous manque plein de choses dans nos rapports. Il nous manque les capacités, il nous manque les ressources en ETP, il nous manque les consommations de soins, et puis plein d'autres indicateurs qui pourront étayer le diagnostic de territoire. Voilà.
Merci. C'est fini. Les participants, j'imagine, auront copie de la présentation.
Donc c'est une pression que je voulais donner. En fait, si je ne dis pas de bêtises, la présentation plus complète, hein, pour des raisons de temps, qui a été faite à Brumat aujourd'hui, mais mes contrôleurs de gestion, elle a été portée sur le site de l'ADESME.
Très bien.
Donc on les remercie d'ailleurs, toutes les deux, d'avoir pu faire quelque chose de beaucoup plus condensé, mais c'était aussi la règle du jeu. Alors, on reverra tout à l'heure, hein, d'autres outils, etc. Juste une remarque, on pourrait dire comparer et toujours comparer. On voit que les comparaisons auxquelles on s'est souvent livré dans nos établissements en termes de caractéristiques géopopulationnelles et en termes de profil d'activité, souvent elles sont restées des comparaisons entre nos secteurs. Comme on a connu au sein d'un même établissement, malgré des différences territoriales propres à chaque établissement, des évolutions, des trajectoires historiques qui sont à peu près les mêmes, moi je trouve qu'on n'en sort pas toujours grand-chose. Et là, l'intérêt, c'est qu'avec les GHT, avec d'autres projets, demain les CPT, les projets territoriaux de santé mentale, pour ce qui est de la part au moins de la psychiatrie, on voit qu'en commençant à comparer des choses qu'on n'avait pas comparées ou très peu entre établissements, du moins, et puis on en verra d'autres, il en ressort quand même des interrogations. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir cette intervention aujourd'hui sur une commune de Paris qui est plus ou moins homogène, mais dont on voit aussi la capillarité des phénomènes, hein, et les différences entre établissements. Vous avez raison, il y a des choses qui nous interpellent, y compris de l'extérieur, même si ce n'est pas notre lot quotidien. Et je pense qu'on a intérêt à développer dans nos futurs projets ce type de comparaison, y compris même des comparaisons à distance, maintenant qu'il y a des outils, entre des établissements avec des établissements qui ont à peu près les mêmes profils que les nôtres. Bon, à titre personnel, dans l'établissement, on a commencé de le faire. Honnêtement, ce n'est pas inintéressant parce qu'on voit que les trajectoires pour les établissements réputés comparables, sur des agglomérations qui se ressemblent, les trajectoires, elles ne sont pas du tout les mêmes et on ne produit pas, par exemple, les mêmes profils d'établissements entre, par exemple, la part de l'hospitalisation et de la part de l'ambulatoire, etc., etc. Et je crois qu'il faut impérativement qu'on progresse là-dessus. Donc, c'était un peu une pétition de principe pour qu'on se mette le doigt sur cette ambition-là.
Donc, il faut s'inspirer de ce qui a été fait à Paris.